On l'avait reçu pour la série de badges en tissu où il montrait qu'une équipe web est la somme de talents très différents. Et entre-temps, il est vraiment parti en mission pour améliorer, avec ses outils de designer UX, le travail des services d'urgence qui répondent au 112. Nous recevons donc, par satellite, Julien Dubedoux, designer du système d'information pompier Nexis, graphiste et directeur artistique parti de Toulouse pour les grandes agences parisiennes, créateur de la collection de badges tissés Cyberspace Building Crew, pour lequel on l'a déjà reçu, et ex-chef de projet web en alternance pour le lancement du cigare électronique Clinton 3000.
CPU carré petit utile.
Julien, on avait déjà parlé de ton travail comme designer UX. Comment tu t'es retrouvé sur un projet pour reconcevoir les services d'appel d'urgence ?
Alors en fait, c'était plutôt de reconcevoir, c'était plutôt explorer des modes alternatifs pour appeler les secours. Donc c'était une mission de préfiguration et c'était une mission de préfiguration qui a été mise en place par l'Agence du numérique de la sécurité civile. Et pour ce qui est de l'App 112, en fait, ils avaient fait ce qu'ils appelaient un défi, donc avec la DINUM, qui est la direction du numérique, la direction interministérielle du numérique, qui en fait propose à des administrations d'exposer une problématique et de chercher des candidats pour répondre à cette problématique avec un programme qui s'appelait Designer d'intérêt général.
C'est un peu comme un hackathon, mais où tu es payé et beaucoup plus longtemps.
C'est un peu ça, ouais. Donc c'était une mission pour ce qui s'agissait de l'App 112, c'était une mission, il n'y avait pas que celle-là, il y en avait plusieurs. La DINUM proposait plusieurs défis de plusieurs administrations et ouvrait les candidatures, donc il fallait déposer un dossier écrit, plus si on était retenu à l'écrit, passer un oral, et on faisait des vœux sur les différentes administrations. Donc moi j'avais fait 3 vœux, avec en premier vœu la sécurité civile avec l'App 112. J'ai donc déposé mon dossier, passé un oral devant un jury de deux pompiers qui étaient les mentors du défi, des personnes de la DINUM qui organisaient ce programme et du UX designer, donc pour vérifier que je disais pas trop de bêtises à l'entretien. Et ma candidature a été retenue. Donc voilà comment je suis rentré comme agent public à l'Agence numérique de la sécurité civile pour 6 mois.
Que pouvait amener le regard d'un spécialiste UX sur la gestion d'un appel d'urgence ?
Donc en fait, il s'agissait d'une mission de prospective. Donc déjà, c'était savoir si cette fameuse application 112, cette fameuse App 112, serait pertinente. Est-ce qu'elle répondait aux besoins utilisateurs ? Est-ce qu'elle pouvait être testée ? Est-ce que quel parcours faire ? Que devait contenir l'application ? Et voilà, est-ce que c'était un mode alternatif à l'appel qui était intéressant ? Donc déjà, il y avait toute cette partie un peu recherche utilisateur qui était à faire. Donc, qui est au cœur du travail du X. Et donc, voilà, ça nous a permis de tester nos hypothèses, de voir si c'était un moyen supplémentaire viable, en plus de l'appel, pour contacter les secours, de travailler les parcours et puis de tester l'application dans les centres d'appel et aussi sur le terrain auprès des requérants directement en intervention réelle.
Tu es allé jusqu'à construire une maquette fonctionnelle qui est accessible, d'ailleurs, n'importe qui peut la tester sur l'URL urgence@.app. Et à condition d'avoir JavaScript activé, hein, je suis pas allé jusqu'au vice de voir si ça marchait sans JavaScript. Est-ce que construire une application mobile ou une progressive web app, puisque c'est une progressive web app que tu mets à disposition pour un appel d'urgence, est-ce que ce n'est pas du solutionnisme technologique ?
Alors c'était justement une des questions auxquelles je devais répondre, hein, puisque moi j'étais un consultant UX. Et en fait, ça dépend comment on aborde l'application. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur le fait que l'application, c'est pas une substitution au téléphone. C'est un moyen supplémentaire d'appeler les secours. L'application peut aussi servir si un numéro d'urgence est saturé. Aujourd'hui, les SDIS sont souvent un répondeur téléphonique en place, ou par exemple, s'il y a un événement climatique ou météorologique, inondation par exemple, on va avoir un répondeur qui va dire, si vous appelez pour l'inondation et que votre cave est inondée, appuyez sur 1. Et puis, si c'est une urgence vitale, appuyez sur 2. Donc ça existe déjà. Et demain, on pourra, avec l'application, l'avoir en mode PWA ou s'il y a une saturation des appels, envoyer en callback un SMS avec un lien sur lequel on peut cliquer pour avoir une qualification, une préqualification plus détaillée que juste appuyer sur 1 ou appuyer sur 2. Et comme c'est en temps réel, pendant l'attente, l'opérateur pourra voir l'appel se préqualifier tout seul. Donc, par exemple, si c'est un arrêt cardiaque ou si c'est quelque chose de grave, voir l'appel qui remonte dans sa liste. Et à l'inverse, si c'est bien une inondation qu'avec dégâts matériels uniquement, rester à un niveau de priorité inférieur. Donc, il pourra y avoir une préqualification des appels, un peu comme ça existe aujourd'hui, mais de façon plus poussée. Au début, quand on a lancé le projet, les gens disaient « personne ne va télécharger une application si on est gravement blessé, on ne va pas remplir un parcours, etc. etc. » Et ça, on est tout à fait d'accord. C'était clair depuis le début. Personne ne fait ça, les applications peuvent être très peu installées. Enfin, voilà, il y a plein de freins à ça. Mais il y a des moyens de déployer l'application, soit en l'installant, soit justement en Progressive Web App, c'est-à-dire servi directement par le CTA, par exemple, avec un lien Internet, qui permet d'avoir un autre moyen que le téléphone. Par exemple, dans les voitures, aujourd'hui, il y a les e-calls. Quand la voiture a un accident, elle appelle toute seule les secours. Mmh. Il y a le téléphone.
Ça, c'est une directive européenne qui va devenir obligatoire sur toutes les voitures neuves, justement.
Ouais, c'est le cas en France depuis avril 2019, je crois, toutes les voitures neuves sont équipées. Mais donc, c'est un moyen supplémentaire, en fait. Et on ne dit pas, est-ce que l'e-call va remplacer les appels? Bah, c'est pareil avec l'application. Il faut comprendre, c'est que les appels d'urgence, ça marche très bien quand les gens sont francophones, savent qui appeler, savent comment, où est-ce qu'ils se trouvent, etc. Bon, l'AML, dont on parlera peut-être plus tard, a aidé à ça. Mais il faut penser aux personnes sourdes et malentendantes qui ont le 114, mais ça peut être un moyen supplémentaire de contacter les secours. Il faut penser aux personnes qui parlent pas bien français. La France, c'est 60 millions de touristes par an. Donc forcément, tout le monde parle pas français quand il a besoin des secours. Il y a aussi, donc ça c'est pour tout ce qui est les facteurs permanents. Après on a les facteurs situationnels, donc quand un centre de traitement des appels est surchargé, par exemple lors d'un événement climatique, on pourrait distribuer cette URL de PWA pour que les gens, au lieu d'attendre 10 minutes au téléphone que quelqu'un décroche, commencent à se préqualifier eux-mêmes pendant l'attente, ou quand il y a une crainte pour soi ou pour les autres, donc par exemple si c'est des violences conjugales ou un cas d'attentat ou quoi, où on peut pas forcément appeler les secours, donc on pourrait avoir ce mode dégradé d'appel des secours, enfin ce mode alternatif, dégradé dans ce cas-là, mais alternatif pour les autres. Quand il n'y a pas aussi de réseau GSM, il y a encore des zones blanches en France où il y a Internet, le Wi-Fi via la box, mais il n'y a pas forcément de GSM, donc ça peut être un moyen alternatif. Ou même quand on est témoin de quelque chose qui se passe et qu'on ne sait pas vraiment si on peut appeler ou pas, donc on a vu que via une application, ça levait des freins. Donc en fait, c'est tous ces modes alternatifs qui, mis bout à bout, font des millions de personnes, en fait, des millions de situations. Et il faut savoir aussi que la plupart du temps, un appel d'urgence, enfin bien souvent, c'est pas la victime elle-même qui appelle paniquée. Ça peut souvent, le requérant, c'est un proche ou quelqu'un d'autre. Donc il y a plein de cas où cette application peut être une alternative au téléphone. Ça a pas pour vocation de la remplacer. On a aussi tous les professionnels de santé ou de la sécurité qui, eux, appellent un vigile de supermarché ou une infirmière au domicile. Va appeler plusieurs fois par semaine les secours, par exemple, peut-être que eux, via une application, c'est plus pratique parce qu'ils savent très bien de quoi il s'agit, donc ils vont pouvoir préqualifier plus efficacement ce qui leur arrive. Voilà, c'est tout simplement une manière supplémentaire au téléphone pour appeler les secours.
Alors, tu as entendu l'interview avec le commandant Laurent Nicolas et le capitaine Sébastien Marat du SDIS-31, qui du coup ont testé la maquette de web app. Ça allait un petit peu dans ce que tu pensais finalement, leur retour ?
Alors, je crois que le retour, c'était que c'était un peu lent, mais normalement...
Dans le stress de l'action, c'est peut-être pas forcément intéressant, mais il disait que dans le mode dégradé, effectivement, ça pouvait être intéressant.
Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs cas. Comme je disais, même pour les étrangers, au moment où on passe la frontière, on a un petit SMS de notre opérateur qui dit le numéro d'urgence dans ce pays, c'est tel numéro d'urgence. Et demain, ça pourrait être... Il y a aussi ce site internet ou cette application qui permet d'appeler les secours et qui soit dans la langue du requérant. Donc, comme je disais, la France, c'est 60 millions de touristes, donc ça fait quand même un bon paquet de personnes. Ça double quasiment la population annuellement. Et donc, ça peut être un cas d'usage. Après, comme je disais, si on est soi-même victime, qu'on parle français, qu'on sait où on est et qu'on a un téléphone sous la main, faut pas utiliser l'application, faut appeler directement. Mais il y a d'autres cas où l'application sera plus intéressante. Ça dépend vraiment des cas, en fait. C'est vraiment un moyen supplémentaire qui est offert au requérant.
Il me semblait qu'au moment où le 112 a été proposé au niveau européen et a été mis en place dans les GSM, il était question qu'un service de traduction soit disponible via le 112. Finalement, qu'en est-il actuellement ?
Actuellement, le service de traduction est en place. Après, c'est chaque SDIS qui va conventionner avec un organisme de traduction, ou plusieurs d'ailleurs. Soit un qui fait plusieurs langues, soit un qui fait toutes les langues, soit plusieurs traducteurs. Et à ce moment-là, tout le défi déjà consiste à reconnaître la langue dans laquelle le requérant s'exprime, pour se mettre en lien avec un traducteur dans la bonne langue. Donc évidemment, quand c'est des langues européennes qu'on a le plus l'habitude d'entendre en France, on peut deviner. Mais des fois, quand on ne parle pas la langue et qu'on ne sait pas ce que c'est, déjà, il faut essayer de demander au requérant quelle langue il parle avant même d'écrire sa situation d'urgence pour être mis en face de la bonne personne. Et ensuite, c'est une conférence à trois avec le traducteur, le service d'urgence et le requérant.
Comment fonctionne le 114, le numéro court pour les sourds, malentendants, muets et malauralants, et qui s'en occupe ?
Alors, le 114, c'est effectivement le service pour sourds, malentendants, etc. C'est un service qui est accessible donc par Internet, par SMS, même par fax, me semble-t-il. Il est opéré par le Centre National Relais, le CNR 114, qui se trouve au CHU de Grenoble. Et donc, il y a un service de l'hôpital, en fait, et il est armé par des interprètes LSF qui sont soit entendants, soit sourds également, et qui font l'interface entre leurs requérants et les services d'urgence appropriés.
Du coup, tu es allé les visiter ?
Eux sont venus me voir, elles sont venues nous voir à Paris, et ils nous ont bien gentiment invités à aller les voir, mais je n'ai pas eu encore l'occasion d'aller à Grenoble, donc je ne suis pas allé.
Ce serait peut-être l'occasion, finalement, si tu es invité. Est-ce que la mise en service de l'AML, l'Advanced Mobile Location, donc qui est un standard du GSM qui a été mis en place en France en janvier 2021, est-ce que ça a changé le scope de l'idée ?
Alors pour ce qui est de l'App 112, non, ça n'a pas changé parce que l'AML, c'est une façon de plus de localiser les gens. Il y avait plusieurs façons de le faire en France. Il y avait déjà avec l'adresse de l'abonné et de la ligne téléphonique, donc pratique si on appelle d'une ligne fixe. Pareil pour l'abonné de la ligne mobile, parce qu'on peut appeler d'un mobile depuis chez soi, donc ça fait gagner du temps pour savoir où on habite. Donc ça s'appelle la PFLOW. Ensuite, il y a la PFLOW, donc ça c'était la PFLOW facturation qu'on appelle. Ensuite, il y a la PFLOW mobile. Donc là, c'est une triangulation avec les antennes qui existait déjà. Et donc, l'AML est un outil de plus dans cette panoplie qui permet de géolocaliser donc via un SMS qui est appelé lorsqu'on compose un numéro d'urgence. Un SMS est envoyé à un point de terminaison avec les coordonnées de l'appelant. Donc, ça permet de localiser plus vite, mais ça va pas changer... Ça changeait pas l'appli qui, elle, géolocalise avec le GPS du téléphone également, mais qui s'est envoyé par un autre moyen. Donc voilà, ça n'a pas changé l'appli. Mais par contre, la mise en œuvre de l'AML, c'est un vrai progrès. C'est aussi mise en œuvre par l'Agence numérique de la sécurité civile, donc la même agence qui s'occupe de l'App 112 et de Nexis. Et ça a permis déjà de sauver des vies depuis que c'est mis en place.
Je ne sais pas si tu as regardé, puisque j'en ai parlé justement avec les pompiers que l'on a eu, de l'application What Three Words qui a été testée, enfin qui a été mise en place en Angleterre, au Royaume-Uni depuis 2 ans. Si tu as regardé, si c'était une fausse bonne idée ou si c'était une mauvaise idée tout court.
Pour What Three Words, c'est une façon supplémentaire de traduire les coordonnées géographiques. Moi-même, j'ai regardé pour l'application, c'est intéressant ou pas. Il y a aussi Code Plus ou Plus Code, je sais plus comment ça s'appelle, chez Google, qui me fonctionne un peu sur le même principe. Alors, c'est pas avec 3 mots, ils ont la localité à la fin, donc c'est un peu différent. Mais tout ça, c'est des choses pour édicter plus facilement des coordonnées géographiques, donc ça peut être une aide. Après, forcément, s'il y a des homonymes ou que c'est trompeur, ça devient contre-productif. Mais c'est toujours en sus des coordonnées géographiques exactes.
Oui, parce que le système Google, on peut l'essayer d'ailleurs sur Google Maps, c'est le code à 6 caractères que l'on a. En fait, il se répète tous les 300 kilomètres, d'après ce que j'ai vu. Et What Three Words, avec les homonymes, on a parfois des homophones à moins de 15 kilomètres, ce qui est quand même ultra problématique. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Julien Dubedoux, designer UX du système d'information des pompiers Nexis. Et justement, donc, Nexis, entre-temps, c'est parce que ta mission a évolué, d'après ce que j'ai compris, puisque tu interviens désormais aussi sur l'application professionnelle de dispatch et de suivi qu'il y a dans les plateaux téléphoniques, donc des services d'urgence. Alors, qu'est-ce que le projet Nexis en soit ?
Alors voilà, tout à fait. Après le défi de la DINUM de l'App 112, j'ai été recontacté donc pour participer au projet Nexis, qui est le plus gros projet de l'Agence du numérique de la sécurité civile et qui va servir en fait de système d'information des pompiers. Donc c'est un vaste ensemble logiciel puisque c'est pas qu'une seule, en fait c'est plusieurs briques ensemble. Donc c'est la prise d'appel, le dispatch, mais aussi la gestion des casernes, enfin tout ce qui entoure la vie des secours. Donc là, à la prise d'appel, multi-service d'urgence, ça pourrait être SAMU, police, pompiers, gendarmerie, etc. Et après, ce qu'on appelle le système de gestion des opérations, qui est dédié aux pompiers pour le coup et qui va faire toute la gestion de dispatch des engins, etc. Donc ça, c'est un projet qui a été imaginé suite aux attentats de 2015 pour renouveler et moderniser le système d'information des appels d'urgence. Donc jusqu'à maintenant, en fait, chaque département soit fait ses propres développements, comme ça peut être le cas dans le département du Nord ou à Paris, soit a fait appel à un éditeur de ce genre de logiciel qui le développe sur mesure ou qui ont des solutions sur étagère ou quelque chose d'hybride entre les deux. Donc là, ce serait une solution nationale.
C'est-à-dire que c'est fini l'indépendance de chaque département, on unifie et on a un éditeur qui est responsable pour toute l'application, quoi.
Alors, c'est pas vraiment fini l'autonomie des départements, puisqu'en fait, les paramétrages vont être départementaux, c'est-à-dire que la façon de travailler des départements va être conservée, les engins, la façon de dispatcher, les doctrines, c'est très important dans l'organisation des secours, donc ça, c'est départemental et ça va pas changer avec Nexis. Par contre, l'utilisation du logiciel sera uniformisée. Et ça, ça permet de vraiment faire plein de choses, comme mutualiser déjà les moyens financiers pour le développement, et aussi que tout le monde bénéficie des améliorations. C'est-à-dire que si un SDIS a une spécialité, je pense dans le sud avec les feux de forêt, par exemple, ou des choses comme ça, et ben le logiciel va être amélioré dans ce sens, et tout le monde va bénéficier de la mise à jour permanente, en fait. Donc, contrairement à maintenant, où il y a des développements spécifiques qui doivent être refaits à chaque fois, et puis et ce, par chaque SDIS qui en ont besoin, puisque c'est refacturé à chaque département.
Puisque chaque SDIS, chaque groupement de pompiers est départemental et ils sont autonomes, comment les convaincre que la solution logicielle que vous allez développer sera meilleure ? Parce qu'elle est gratuite, parce que la conception a été faite par un excellent directeur artistique qui fait de l'UX, ou parce que justement elle a été rodée par rapport à ce qui existe dans d'autres cas, ou qu'ils ont la possibilité de l'améliorer par eux-mêmes.
Alors il y a plusieurs réponses à cette question. C'est tout simplement, comme tu le dis, les départements sont indépendants. Donc il y en a qui ont des systèmes qui datent des années 2000, voire avant. Il y en a qui ont refait tout leur système d'information, donc ils sont beaucoup plus au goût du jour, on va dire. Et donc, évidemment, chaque SDIS n'a pas les mêmes intérêts à déployer Nexis rapidement ou pas. Mais sans trop forcer, il y a déjà pas mal de SDIS qui sont intéressés, puisque ça va leur permettre de moderniser leur système en faisant des économies d'échelle, en partageant les coûts avec d'autres SDIS aussi qui ont des systèmes un peu anciens. Par contre, quand tu dis gratuitement, c'est pas le cas, puisque les SDIS participent financièrement au développement de Nexis. Donc, c'est vraiment une action conjointe. L'agence est financée pour partie par l'État, pour partie par les SDIS. Et donc, ils sont vraiment partie prenante. On a plusieurs vagues de déploiement. Les premiers qui vont avoir Nexis sont évidemment impliqués dans les groupes de travail pour comprendre leurs besoins, écouter leur avis, leur façon de travailler, etc. Donc, c'est vraiment multi-acteur. Et c'est ce qui permet aussi, enfin voilà, les SDIS sont déjà convaincus à plein dans le projet et attendent vraiment que ce soit déployé. Il y a aussi l'aspect UX, donc ça, tu disais, c'est pas vraiment qu'il y a quelqu'un de super qui le fait, mais c'est vrai que les éditeurs ont peut-être délaissé ce point-là, et dans les versions les plus anciennes, en tout cas des logiciels, c'est pas forcément ergonomique. Et en étant à l'écoute des utilisateurs, on fait pas mal d'utilisateurs, moi je parle à beaucoup d'opérateurs, hein, donc l'utilisateur final de ce logiciel, qui nous font des retours très intéressants et qui permettent de vraiment faire un logiciel à leur main et de l'adapter. Donc j'essaye autant que possible de partir en immersion. Donc j'ai déjà été dans plusieurs départements voir comment travailler les opérateurs. J'ai pas eu la chance d'aller dans le SDIS 31 encore, mais je suppose que ça va venir un jour. Et ça permet vraiment d'écouter les besoins et puis de faire tester ça, donc d'avoir le logiciel le plus adapté, enfin, en tout cas on espère.
Quels sont les obstacles que tu as relevés ? Sur l'usage, sur le fonctionnement, côté plateau téléphonique.
Attends, juste je recoupe. Ça, c'est pour l'App 112 ou on repart sur Nexis ?
Oh, les deux, hein, tu peux partir comme tu veux.
Ouais, ok.
Tu sais, je fais les questions ouvertes, là, comme pendant les tests d'utilisateurs.
Donc, les obstacles relevés. Alors, pour ce qui est de l'App 112, le plus difficile, c'est de faire une application qui soit simple à opérer, et puis un parcours efficace et compréhensible en moins de 10 secondes pour le requérant. Et il y avait des choses toutes bêtes qui ont été améliorées au fil des 6 mois et qui ont vraiment fait gagner du temps sur le parcours. Et après, on est confronté à tout un tas de populations et certains sont à l'aise avec le mobile, d'autres non. Donc voilà, c'était des obstacles de cet ordre-là. Mais on a réussi à les passer, je pense, en faisant justement des tests et en travaillant de manière très itérative, en faisant des dizaines de versions de l'application avec un déploiement continu pour faire le maximum de tests. Pour Nexis, bah, les obstacles, il n'y a pas vraiment d'obstacles à proprement parler, c'est que c'est un système gargantuesque qui a pour finalité de sauver des vies, donc il ne faut pas non plus se planter et faire n'importe quoi, donc il y a quand même une grosse pression de ce côté-là. Et voilà, le plus gros obstacle, c'est vraiment de bien comprendre le métier, d'être sûr de ne pas se tromper, de bien prendre en compte les demandes des opérateurs et puis des différences 10, et ne pas se perdre en route. Et ne pas perdre de vue le but de ce système, donc, qui est quand même assez critique.
Mmh. Ça te fait quoi d'arriver sur un projet industriel avec une interface qui est critique, sans arriver en mode pompier, parce que ça y est, c'est trop tard, c'est planté?
Bah, c'est très intéressant, il y a tout à faire. Hein. Donc, on prend les modules un par un, j'ai dû comprendre les problématiques, j'ai fait pas mal d'immersion pour comprendre un peu le métier de pompier sans avoir l'outrecuidance de dire que j'ai tout compris, évidemment, parce que c'est pas le cas. Mais déjà, de connaître l'organisation des secours et tout, j'ai dû apprendre tout ça, regarder, et j'en apprends encore tous les jours. Donc, c'est très intéressant d'être au contact. De toute façon, c'est la base, hein, du métier UX, d'être au contact de l'utilisateur et de vraiment bien comprendre quelles sont leurs problématiques et essayer de les régler. Parce qu'évidemment, ils ont une problématique pompier. Moi, j'ai une connaissance UX, donc il faut faire matcher les deux pour que je réponde à leurs besoins via les interfaces, via les parcours. Et c'est aussi en conception en amont, puisque je fais aussi la conception donc avec les product owners, les développeurs de toutes les fonctionnalités. Donc, c'est un gros boulot là-dessus.
Mmh. J'aurais tenté la blague, mode pompier.
J'en ai une tonne. Hein. Le jour où je fais une conférence, je peux te dire que chaque slide, ça sera un jeu de mots avec les pompiers.
Justement, qu'est-ce que tu as découvert sur cette mission?
Bah déjà, j'ai découvert un peu le monde des services d'urgence, surtout côté pompier. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Par contre, par exemple, je savais pas que c'était départemental. Je me posais pas trop de questions. Ça m'était déjà arrivé d'appeler les pompiers, mais je m'étais pas vraiment posé la question sur qui décrochait, comment ça marchait, comment était le système, voilà tout ça. Donc j'ai découvert déjà tout ce monde-là, et puis. Toutes les différentes immersions m'ont fait découvrir différentes façons de travailler, différents profils, aussi tout le, on va dire, l'univers des requérants, donc les gens qui appellent les secours, comment ça marche, comment sont dispatchés les engins. J'ai eu la chance de monter dans des camions, j'ai même dormi en caserne, donc c'est un gros, voilà, c'était une découverte énorme sur tout ce secteur-là.
T'as pris ton shift à la caserne? Waouh.
Ouais.
Et quel est le plus gros regret et surtout ce qui ne peut être amélioré à ton échelle?
J'ai vraiment aucun regret, c'est vraiment un projet super, donc j'ai aucun regret sur la mission. En plus, c'est toujours en train de continuer, donc ça peut s'améliorer, ça s'améliore de jour en jour, et ça, il y a des nouvelles choses à faire tous les jours. Donc voilà, je m'efforce de travailler pour que ce soit le mieux possible. Ce que je peux améliorer, ce qui peut être amélioré à mon échelle, bah, c'est d'avoir vraiment de prendre en compte rapidement les retours utilisateurs. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire, parce que c'est un projet industriel, comme tu disais tout à l'heure. Et quoi, c'est tellement une grosse machine que on s'efforce d'être le plus agile possible. On y arrive plutôt pas mal pour une machine aussi grosse. Mais bon, forcément, il y a des allers-retours à faire et tout ça. Donc voilà, j'attends des cycles très, très rapides, mais il y a un gros développement, il y a un gros investissement derrière. Donc c'est des fois difficile d'être aussi agile qu'un petit projet de 10 personnes. Mais pour une administration, je trouve qu'on s'en sort exceptionnellement bien.
Quelle a été à ce jour ta plus grosse émotion lors de cette mission?
Ma plus grosse émotion sur le projet, je pense que bah, ça devait être le fameux shift à la caserne. On faisait des tests utilisateurs sur l'application. Et j'ai eu la chance d'être là au moment d'une naissance, donc c'est toujours très émouvant. Être appelé sur une urgence pour une naissance, c'est un peu inédit. Et surtout, alors déjà les pompiers, c'est pas si souvent que ça. Mais en tant que test utilisateur, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de designers UX qui ont fait un test utilisateur qui ont vu une personne naître pendant un test utilisateur. Donc c'était assez émouvant.
Ou qui ont descendu une perche de feu.
C'est un peu moins émouvant quand même. C'est rigolo, mais c'est moins émouvant.
Ou tu as pris l'hélicoptère, tu as atterri sur une autoroute, tu as fait quelques photos qui étaient assez superbes quand même.
Ah, j'ai pas pris l'hélicoptère. Ça reste encore à faire. J'ai vu l'hélicoptère atterrir sur l'autoroute, mais je l'ai pas pris.
Est-ce que du coup tu as passé des certifications en secourisme ou en incendie?
Eh bien non, mais c'est prévu. On devait passer le PSC1, qui est la première étape, mais le Covid a un peu chamboulé tout ça. Donc c'est toujours prévu que je passe le PSC1, mais c'est pas encore fait.
Quand on t'a reçu pour la première fois dans l'émission CPU, c'était pour ton projet réussi de badge tissé. Est-ce que du coup, t'en as échangé et est-ce que tu as enrichi ta collection ?
Bien sûr. C'est vrai que les pompiers, c'est un peu le paradis des écussons brodés. Donc voilà, quand je suis reçu, en général, dans un SDIS, soit ils m'en donnent gentiment, soit voilà, on fait des échanges. J'en ai quelques-uns, mais... Bon, je pense que ma mission sera terminée quand j'aurai réussi à rassembler les 100 et quelques, que je sais plus s'il y a 100 ou 110 en France. Donc quand j'aurai les 100 ou 100 écussons, je pense que ma mission sera finie et tant que c'est pas fait, je continuerai à travailler.
Pas mal. Question complémentaire, je t'oblige absolument pas à y répondre puisque c'est sensible. Puisqu'on a parlé d'appli, il faut aussi qu'on parle de l'appli de SIP. Quelle a été ta réaction à son lancement et qu'est-ce que tu en penses maintenant ?
La piste de l'application, c'était pas la meilleure piste quand il y avait le sell broadcast, mais c'est plutôt un sans commentaire parce que j'ai pas les détails que autre chose, quoi.
Merci beaucoup, Julien Dubedou. Et donc, je rappelle, ben, tu es designer UX dans les services d'urgence. Comme quoi?
Ben, merci beaucoup. Si les pompiers du 6-31 ont des écussons à m'envoyer, qu'ils n'hésitent pas.
Je pense qu'ils écouteront le message.